25 ans, Marc Vella a parcouru avec son piano à queue environ 200 000 km sur les routes et sur les chemins de plus de 40 pays pour célébrer l'amour. Pianiste virtuose, il donne des récitals dans le monde entier. Il est le concepteur de la caravane amoureuse pour promouvoir la non-violence et la paix. Il emmène avec lui des personnes pour dire « je t'aime » aux autres. À ce jour, une vingtaine de pays ont été conquis amoureusement. Et le voilà avec nous pour d'abord nous raconter une histoire.
La forêt qui brûle, oui, je la raconte souvent, surtout dans des écoles, aux jeunes, quand effectivement, je leur dis, voilà, la forêt brûle, tous les animaux sont catastrophés, ils assistent impuissants à la destruction du lieu là où ils vivent. Et encore pire, il y a même des animaux qui font du business avec ça, qui coupent du bois, qui le vendent, enfin, qui trafiquent, quoi. Et mais voilà, bon, toujours est-il qu'il y a un colibri, petit oiseau, qui lui dit rien. On le voit, il fait des va-et-vient. Et les animaux le voient, ils regardent. Et puis en fait, le petit colibri va à la rivière et avec son petit bec, il prend un peu d'eau. Et puis il retourne au-dessus de l'incendie. Et puis voilà, il fait ses va-et-vient. Et les animaux donc réalisent tout d'un coup ce qu'il est en train de faire. Et puis il l'interpelle. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu te prends pour qui? Et puis, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et puis le colibri le regarde, il dit, je sais pas si ça sert à rien, je ne me pose même pas la question, mais je fais ma part.
Donc c'est un petit peu, c'est complètement l'image de ce qui se passe actuellement autour de nous. Et ce que je veux te demander, c'est cet incendie qui brûle la forêt pour toi, il est où? C'est quoi cet incendie? Qu'est-ce qui se cache derrière ce feu?
Oh là là, qu'est-ce qui se cache derrière le feu? Tout simplement, une chose tout à fait simple, c'est que le feu de la vie, et qui est en nous, n'est pas chanté, n'est pas exprimé. Donc, comme il n'est pas exprimé, on va l'exprimer d'une autre manière. Voilà, donc, comme on ne peut pas chanter la vie, la joie, parce que dès que l'homme chante la joie, on le tue. Donc ça génère de telles frustrations, de telles colères, et l'homme est terriblement en colère. Donc, puisque le feu ne peut pas être exprimé, il l'exprime quand même. On peut pas, il faut que le feu brûle, il faut que ça brûle. Mais comme ça ne peut pas brûler l'intérieur, comme ça ne peut pas rayonner, on va se consumer, tout simplement.
Dans l'histoire du colibri, il y a donc ce petit oiseau qui choisit de faire sa part face à cet incendie géant. Il choisit de ne pas rester indifférent, comme la plupart des animaux, mais de faire sa part. Toi, Marc, c'est quoi ta part?
Ma part, c'est de réconcilier l'humain, justement, avec le feu intérieur, de le recontacter, de le reconnaître, et de le magnifier. Tout mon travail, c'est de dire aux gens que voilà, il y a cette dimension du désir, voilà, de leur rappeler ce qu'est l'amour, parce qu'on ne sait plus ce qu'est l'amour. L'amour, c'est du désir qui s'abandonne. Et aujourd'hui, où est l'amour sur la Terre? Si on va dans est-ce que c'est vraiment chez les gens, dans les couples, les gens mariés, dans la rue, dans les maisons closes, dans les cinémas, c'est où l'amour? On se rend compte que il n'est pas tellement visible. Il semble très étrange dans les maisons, chez les gens, dans les couples. Souvent, on entend d'histoires de jalousie, de tromperie, de surveillance, de peur. Parfois, il y a des gens chez qui ça se passe bien, heureusement. Mais il semblerait que ce ne soit quand même pas la majorité. Et puis après, dans la rue, les gens, on voit bien que c'est comme l'amour n'est pas chanté, c'est presque coupable. Et puis quand l'amour est trop chanté, on tue. Donc on a moult exemples comme ça de femmes qui sont lapidées, d'hommes qui sont enfermés et tués parce qu'ils aiment trop. Et c'est toute la problématique donc du chant de l'amour sur la terre qui n'est pas présent. Donc mon travail c'est ça, c'est de dire mais contactez votre vraie nature, voilà, quelle est-elle? Voilà. Et c'est vrai que nous sommes très différents. Nous avons des natures différentes. Il y a des gens pour qui l'amour va s'exprimer dans l'abstinence, dans le silence et la prière. Très bien. Il y en a d'autres pour qui l'amour va s'exprimer avec une autre personne, et ce, dans une très grande fidélité et dans un grand partage en conscience. Et puis il y en a d'autres pour qui l'amour va être la quête de la pluralité, dans cette quête du mystère et dans ce partage avec plusieurs personnes, parfois en même temps, pas en même temps, enfin c'est ainsi. Et on se rend compte que donc dans ces différences, eh bien, ça va générer du coup ce que j'appelle moi les talibans, c'est-à-dire ces regards qui condamnent celui qui est dans l'abstinence va condamner celui qui est dans la pluralité, celui qui est dans la pluralité ne va pas supporter la fidélité, voilà, avec une seule personne. Les couples qui sont dans la fidélité ne supporteront pas la pluralité et encore moins l'abstinence. Enfin bref, donc tout le monde se rejette finalement. Et c'est ça, c'est un drame. Et c'est comment apprendre déjà, prendre conscience que nous avons le droit d'avoir des natures différentes, que c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'humanité dans ses facettes. Voilà, puis aussi dans ces moments d'évolution, de conscience. Voilà, à chaque âge, ces moments de vie aussi, de folie. Il est clair qu'à 18 ans, le mystère de l'autre est grand et peut-être à ce moment-là, on est curieux de l'autre. Et puis à 20 ans, à 40, c'est autre chose. Et puis à 70, c'est encore autre chose. Et c'est comment apprendre justement à accueillir toutes ces différences avec bienveillance. Ça, c'est très important. Un exemple très simple, ça me rappelle un peu cette histoire. C'est une femme qui rêve. Et dans son rêve, voilà, il y a un homme nu qui rentre par la fenêtre de sa chambre. Et cet homme est beau, c'est un métis, voilà, il est nu, il est tendu tout près. Et cette femme, elle fait dans son rêve, elle fait « mon Dieu, que vais-je faire ?» Et l'homme lui dit « Ah, moi, je ne sais pas, c'est toi qui rêves. » Donc voilà, nous sommes démunis face à l'amour. On n'a pas appris aux gens, en fait, l'amour. Donc du coup, comme nous sommes désemparés face à l'amour, il est clair que nous n'avons pas les outils. L'outil, c'est pour moi primordial. Premier, c'est de dire, c'est normal d'avoir tout ça, tout ce feu à l'intérieur de nous. C'est normal, c'est de la vie. Mais il ne faut pas s'en sentir coupable, mais il faut lui donner du sens. Mais il va falloir nous apprendre, justement, à, comment dire, à avoir de, je dirais, savoir déjà remercier. Quand, justement, il y a ce désir que les autres, parfois, peuvent éveiller en nous, c'est très important de rendre grâce, voilà, au vibrant qui nous est offert. Voilà. Il n'y a pas à chercher à prendre. L'amour, le drame, c'est parce qu'on nous a fait croire, il y a des croyances. On nous a fait croire que... Moi, je sais, quand j'étais petit, on m'avait dit que le grand amour dans la vie, c'est une fois, peut-être deux. Et moi, j'avais 8 ans, et je me dis, mais alors, peut-être que ça n'arrivera jamais. Il y a une grande peur, comme si l'amour, peut-être, on ne le vivra jamais. Alors, on rencontre des gens, à chaque fois, on espère, on se dit, ah, c'est peut-être elle. Et puis, il y a de telles attentes que ça ne peut pas marcher. Non, l'amour, c'est quoi ? C'est un état d'être. Ça veut dire quoi, un état d'être ? À l'école, on nous a appris qu'il y avait les trois états de la matière. Il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Eh bien, on devrait nous apprendre qu'il y a un quatrième état de la matière, qui est l'état amoureux. L'état amoureux, ben, c'est ce que nous sommes en train d'entendre maintenant. C'est-à-dire que, par l'état amoureux, tout communique. Les feuilles sont en train de frissonner avec le vent, mais peut-être que ce sont elles qui font le vent parce qu'elles parlent entre elles. Voilà. Et puis, les arbres communiquent avec les rivières, la pierre va communiquer avec le ciel. Il y a des dialogues enchantés, extraordinaires, qui nous entourent. Tout est interrelié, même plus que ça, tout s'interpénètre. Et c'est ça, l'état amoureux. Et l'humain devrait apprendre à être dans cette attitude à chaque instant. Et c'est extraordinaire, du coup, d'aller vers l'autre dans cet abandon. Voilà, oui, je suis amoureux de toi. Et ça ne veut pas dire se sauter dessus. Voilà, absolument pas, il n'y a pas besoin, puisque nous sommes déjà les uns dans les autres. Justement. Et c'est là où on prend conscience, justement, que nous pouvons être cet être de désir, nous pouvons être désirants et désirables, mais en même temps, on n'a plus besoin de chercher à prendre. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et on peut se traverser les uns les autres et être dans cette reconnaissance, enfin.
Donc toi, présente-toi, qui es-tu ? On n'a pas encore fait les présentations. Je sais, Marc, mais Marc Vella, qui est Marc Vella ?
Ben Marc Vella, moi je suis qu'un homme hein, de passage parmi des milliards d'hommes sur cette terre, voilà, en chemin. Tout ce que je viens de dire sur l'amour, j'essaye de l'incarner et j'en suis bien loin parfois. Voilà, je donne des conférences, j'écris des livres sur l'amour et je n'incarne pas le dixième de ce que j'écris, de ce que je dis. Mais pour moi, ça fait sens. Je me rends compte que dans la vie, je ne vois pas ce que je peux essayer de viser d'autre que ça, d'essayer de vivre cette dimension-là. Le reste, pour moi, ne me fait absolument pas vibrer et m'indiffère profondément. Comment je peux être le plus vrai devant l'autre et le plus transparent ? Pour moi, comment je peux être le plus vulnérable même et le plus maladroit et le plus fragile ? Ça me semble fondamental parce que je présente enfin à l'autre toute mon humanité. Et pour moi, je cherche pas à être parfait, je cherche juste à être dans cet abandon, et je n'y arrive pas toujours.
Donc pour toi, l'amour, finalement, c'est peut-être l'outil le plus puissant pour éteindre cet incendie, pour sortir de toutes les crises sociales, économiques, écologiques. Si l'homme arrivait vraiment à développer ce don, cette capacité d'empathie, de compassion et d'amour inconditionnel, tout irait beaucoup mieux.
C'est fondamental ce que tu dis à plusieurs niveaux. D'abord, si on veut sortir de la crise, il faut arrêter de frustrer les gens, de les mettre dans la pénurie existentielle. La pénurie existentielle va générer la crise et le manque général. Si on apprend aux gens à s'abandonner, l'abandon nous mène à l'abondance. Donc ça, c'est un premier point. Pour régler la crise, il faut ramener les gens à vivre, voilà, à leur permettre de s'épanouir, de s'exprimer, à enseigner à nos écoles, non plus à nos enfants à être des élèves, mais à leur apprendre qui ils sont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu parles effectivement de l'empathie, de l'écoute, et je rajouterai de l'humilité, eh bien, en fait, ce sont des valeurs qui ont du sens quand justement on permet aux gens d'être, de vivre leur pleine puissance. Quand les gens, on leur dit, tu es un pécheur, tu es médiocre, tu ne vaux rien, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, c'est pour toi. Et en plus, on doit dire, et en plus, tu dois être humble. C'est irrecevable. Du coup, l'empathie, c'est impossible. Comment puis-je être en empathie quand de toute façon, la violence est banalisée en permanence? Ça commence déjà quand on est enfant, quand on regarde les cartoons, les dessins animés, voilà, de Bugs Bunny, du chat et du tigre Minet, ou de, comment il s'appelle, le bip-bip et le coyote. Qu'est-ce qu'on voit quand on est petit? Ils se tapent dessus, et ça fait rire, et tout ça est tourné sur... Oui, ça fait rire, mais du coup, ça banalise la violence. Quelque part, on va formater les cerveaux pour finalement rire de la souffrance. Et on ne doit pas rire de la souffrance. Très naïvement, il y a de ça 10 ans maintenant, je me disais, voilà, bah finalement, quand les hommes sont allés envahir les hommes, parce que voilà, l'homme est un conquérant, nous sommes des conquérants, des séducteurs, on veut prendre, quoi, il y a quelque part comme ça, l'homme existe de cette façon-là, le territoire à conquérir, et le territoire, ça peut être le géographique comme humain, quoi. Mais de quelle façon ? On se rend compte que c'est dans la nature de l'homme, quelque part. Et ok, d'accord, c'est finalement très bien, parce que c'est ce qui génère les rencontres. Mais de quelle façon je vais le faire? Et très naïvement, je me suis dit, bah tiens, et si on y allait justement, si on allait conquérir, et si on allait justement vers les autres, et séduire, entre guillemets, les autres, mais non pas en essayant de prendre et de dominer, mais en révélant ce qu'est l'autre. En lui disant, tu es beau, tu es belle, en lui disant, tu es magnifique, en lui disant, en exprimant l'émerveillement. Voilà. Non pas en essayant d'écraser, mais en essayant au contraire d'émerger l'autre, voilà, davantage. Parce que l'autre, il est tellement blessé parfois que voilà, c'est vraiment d'aller vers l'autre dans cette reconnaissance. Moi, je reste convaincu que pour guérir des morts du passé, guérir les morts du passé, il nous faut étreindre les vivants d'aujourd'hui. Ça me semble primordial. Donc voilà, ça, c'est aussi une façon d'éteindre l'incendie. Évidemment, pour certains, c'est un discours complètement... stupide, sans sens, absurde. Mais franchement, aller dans un pays avec des kalachnikovs et des tanks, c'est aussi absurde, stupide et sans sens. Alors franchement, stupide pour stupide, autant choisir les bisous. Voilà, je crois que pour moi c'est clair, le choix ne demande même pas une réflexion appuyée.
Donc chacun sa croisade, toi tu as choisi les bisous et l'amour.
Oui, mais c'est le mot croisade est un mot prétentieux quand même. Non, c'est juste parce que il y a simplement cette fascination de l'autre. Moi, j'aime les gens profondément et voilà, on pourrait en être maladroit. Il a fallu que j'apprenne à gérer mon désir d'homme face aux femmes quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans. Voilà, maintenant j'en ai 50. À 18 ans, moi, les femmes, ça me rendait fou. Voilà, maintenant à 50 ans, je trouve toujours les femmes belles, sauf que ça m'énerve plus. Hein. Voilà. C'est tout, c'est la grande différence. Je vais être touché par la beauté des hommes, voilà, et des gens, sauf que voilà, maintenant, je le vis avec une grande joie, comme je disais tout à l'heure, ce vibrant me traverse, voilà, et je sais rendre grâce à cela. Alors qu'avant, j'avais besoin de prendre, de toucher, de découvrir, j'avais tellement soif de ce mystère. Voilà, mais à 20 ans, c'est un peu normal.